Je crois que c'est une critique qui est tout à fait qu'il faut prendre au sérieux. C'est une critique où il faut dire toutes les ONG qui ont dit au début oui, on va commencer, on va oser faire cette démarche avec les entreprises, ont en fait les mêmes doutes, les mêmes critiques à l'intérieur de ces instances. L'idée, c'était pour moi, c'est un peu dire, est-ce que les ONG sont capables, dans un monde qui est de plus en plus globalisé, de faire une démarche qui a du sens vers le secteur privé? Parce que ça, je crois que cette initiative, il faut le placer dans les relations un peu plus amples, un peu plus larges, entre, d'une part, l'État, d'autre part, les organisations privées, telles que nous, on est aussi une organisation privée. Et d'autre part, le privé, hein, l'entreprise, telle qu'on connaît le secteur privé économique. On constate, on déplore, mais on constate que l'État, de plus en plus, est en train de se déresponsabiliser de ses responsabilités et en plus aussi de ses responsabilités de solidarité internationale. Je ne suis pas d'accord avec ça. Aucune des ONG qui participent à l'initiative sont d'accord avec ça. On craint, on sait qu'il y a là un danger, peut-être, certains disent, peut-être un danger une certaine privatisation de la coopération au développement. D'autre part, on constate aussi qu'on est loin de 0,7% de la coopération au développement telle qu'il a été prônée par les Nations Unies il y a 30 ans. Donc, on a ce problème, on l'a mis sur le tapis à l'intérieur du CFP. Il y a déjà eu un contact entre l'initiative CFP et le cabinet de coopération et développement, où les deux parties se sont mis d'accord de dire il faut se renforcer et pas se concurrencer. Donc peut-être il est peut-être aussi imaginable dans le prochain futur de faire certains projets en complémentarité entre ce qui est d'une part la coopération de l'État et d'autre part la coopération privée. D'autre part, je crois que c'est un peu, il faut le mettre un peu comme quand on constate hein, que la coopération de l'État se déforce, on constate l'autre part aussi que les flux d'argent qui vont du nord vers le sud sont de plus en plus grands au niveau du secteur privé, pas avec les mêmes soucis de développement tels que l'État le pratique ou tels que les ONG le pratiquent. Donc, est-ce qu'on peut rester avec les bras croisés de dire c'est pas notre secteur, on est en conflit avec ce secteur? Ça, c'est une position à prendre. Il y a aussi peut-être une position aussi à prendre, une autre, qui est à dire peu à peu, il faudrait que les ONG soient capables d'avoir une influence sur le secteur privé. Et donc, une initiative comme le CFP est peut-être un levier sur lequel on peut se baser pour dire, peu à peu, je dis de manière très prudente, de manière très, je suis pas naïf non plus, je crois qu'il faut voir jusqu'à où on peut aller. Et là, c'est un peu à chacune des organisations de voir quels sont ces mécanismes de sécurité, pour le dire ainsi. Moi, je le vois comme une certaine aventure, comme une certaine, où on se dit, on va aller ensemble avec cette initiative. Entre-temps, on fait en sorte qu'on ne devienne pas dépendant. Nous, comme Oxfam, on a dit dès le début, on va pas recevoir plus de 10% de ce que sont nos fonds propres de la part de cette initiative-là. 10%, ça veut dire pourquoi? Parce qu'on ne veut pas hypothéquer notre futur et devenir peu à peu trop dépendant de fonds du CFP, puisque ça risque quand même de devenir important dans le futur. On discute ensemble avec ces entreprises, on se prépare avec les syndicats. Parce qu'on a pris contact avec les syndicats. Il y a deux associations qui sont membres, qui sont des organisations qui sont représentatives pour le secteur chrétien d'une part, socialiste d'autre part. Donc c'est aussi une opportunité dans ce sens-là de prendre contact avec les syndicats et les travailleurs de différentes entreprises. On ne veut pas que ça reste une démarche au niveau de top, entre le top des ONG et le top des entreprises. On veut, de manière explicite, impliquer les gens qui travaillent auprès des entreprises, donc les travailleurs des entreprises, et qu'il y ait un contact entre les ONG, d'une part, et direct avec, d'autre part, les travailleurs des entreprises, et pas seulement à travers les directions des entreprises. Donc c'est aussi une opportunité dans ce sens-là. On croit que déjà, il serait très important, si on arrive déjà avec ce CFP, d'avoir un moyen de discussion avec les entreprises, et ici, et dans le sud, parce que l'idée, c'est d'établir, de construire un réseau de relations entre les travailleurs des entreprises, les syndicats des entreprises et les ONG, mais pas seulement dans le nord, ici en Belgique, en Europe, mais aussi dans le sud. Et donc, de dire quel réseau on peut établir avec l'aide de relations internationales des syndicats aussi, bien sûr, sur le suivi des pratiques des entreprises, que ce soit en Asie, en Afrique ou en Amérique latine, et d'avoir une discussion là-dessus. Déjà, cela serait une énorme ouverture, disons, sur quels sont les principes de base sur lesquels les deux parties peuvent se mettre d'accord et quel est le suivi qui est garanti par ailleurs pour que ce soit un contrôle indépendant qui ne dépend pas seulement de la bonne volonté d'un acteur.
C'est pas un peu une façon aussi pour ces entreprises de racheter un passé un peu obscur par une générosité dont certains disent qu'elle est de façade?
Je crois qu'il y a de ça dedans, mais dans ce sens-là, je te parlais tantôt aussi de quels sont les moyens de communication qu'on a accordés. Ça diminue nettement l'importance pour une entreprise s'ils ne peuvent pas relier leur nom directement à une certaine ONG. S'ils peuvent dire on a donné l'argent à un pool de projets dans le CFP, c'est assez anonyme. C'est pas quelque chose qui fait tout de suite augmenter leur crédibilité au niveau du grand public. Moi, je crois qu'il y a de ça. Il y a d'autre part aussi le fait que, et on peut avoir beaucoup de questions là-dessus, mais il y a quand même toute une discussion et une évolution qui se voit aujourd'hui au niveau des entreprises, qui est résumée par certains dans ce qui s'appelle le social responsibility, la responsabilité sociale des entreprises aujourd'hui, où on dit il ne suffit plus aujourd'hui de se poser la question de la rentabilité économique d'une entreprise, il s'agit aussi de la responsabilité sociale par rapport aux travailleurs et tous les sous-traitants de ces entreprises et de la responsabilité de l'environnement. Je crois que ce sont deux éléments importants qui viennent s'ajouter dans le débat des entreprises et aussi à l'interne. Et je crois que c'est une évolution qu'on ne peut pas nier. On peut avoir beaucoup de doutes, on peut être méfiant, mais on ne peut pas nier. Donc, pourquoi ne pas être présent à ce débat comme ONG de développement, puisque si on veut être sérieux et on veut avoir une influence auprès du monde privé par rapport à ce que sont nos critères de développement durable dans le Sud, alors pourquoi fermer le débat avec des acteurs qui sont tellement importants comme les entreprises? Parce que l'alternative à cela, c'est dire eux, ils continuent à agir dans leur monde et nous, on continue à agir dans notre petit monde. Donc c'est un peu, si vous voulez, un essai de mettre un pont entre ces deux mondes-là et de voir jusqu'à où on arrive. Moi, je ne suis pas marié avec cette initiative et donc on s'est mis les précautions internes pour pouvoir se retirer dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas de fond. Et donc notre conseil d'administration a décidé de se rattacher à l'initiative, d'être membre dès le début de l'initiative, mais avec un clair mandat aussi d'information, de suivi de cette initiative. Et dès qu'il y a quelque chose de fond qui viole le principe, le charte de base de cette initiative, à ce moment-là, il y aura des mesures à prendre. Et ça sera, j'espère, à ce moment-là aussi une mesure qui puisse être débattue au courant de ces moments-là avec les entreprises, parce que c'est à ce moment-là que peut-être il y a aussi une responsabilité de notre part à prendre et dire. S'il y a des choses qui ne vont pas, il faut aussi le dire, il faut le dire en public, il faut le dire aux médias. Et c'est à ce moment-là, je dis, les entreprises savent aussi qu'ils sont en train de prendre des risques, parce que s'ils ont souscrit un charte de base où ils disent qu'ils sont contre l'exploitation de l'homme, qu'ils sont contre l'exploitation de l'environnement, et qu'ils sont d'accord avec les principes de base tels qu'on les a décrits là-bas, ils se mettent en fait très vulnérables sur la table en se disant. Ben, si vous trouvez quelque chose qui n'est pas d'accord avec ça, à ce moment-là, ils savent que c'est aussi ouverte pour la publicité et qui est une publicité contre leur image et contre leur marque.
Ben, je crois que le mot-clé dans tout ça, c'est le corporate citizenship. Donc, ça veut dire que les sociétés d'aujourd'hui veulent aussi jouer un rôle dans la société d'aujourd'hui. Et c'est bien cela. Et donc, ça n'a rien à voir avec le passé. Le passé, c'est le passé. Mais donc, on ne veut pas rester dans nos petits coins comme ça, sans rien faire. La société est trop importante pour ne fa pas faire bouger les choses et d'essayer de collaborer et donc de faire un support important et donner un soutien important. Et c'est ce qu'on envisage par cette aide financière, mais aussi surtout par ce dialogue qu'on essaie d'entamer entre les deux groupes qui sont repris dans le Corporate Funding Programme.
Et vers l'extérieur, ça ne servira pas du tout de vitrine.
Je parle pas de vitrine. Je crois que c'est pas le bon mot. Je crois que si on pourrait réussir à essayer d'instaurer le développement durable dans le Sud, je crois qu'on a réussi. Mais donc on sait très bien qu'on n'est pas le seul projet. On ne sera jamais le seul projet, heureusement, qu'il y en a d'autres. Mais de notre côté, on sait bien que on sera un partenaire fiable, et c'est ça ce qu'on veut.
Oui, mais est-ce que vous allez utiliser cette participation dans votre communication externe?
Pas nécessairement. Le but n'est pas là, certainement pas pour la communication externe. Donc, ça pourrait être utilisé pour la communication interne. Et donc, ce qu'on envisage vraiment, et peut-être c'est difficile à comprendre, mais donc vraiment, ce qu'on veut faire, c'est réaliser un beau projet ensemble avec les ONG. Ce qui rend cette initiative assez remarquable, c'est aussi le fait que il y a des deux groupes qui se rencontrent tous les 15 jours. Il y a une réunion et donc je crois que ce qu'on a déjà comme réalisation, première réalisation, c'est le fait que avant il n'y avait pas de dialogue entre les deux. Et ce qu'on essaie de réaliser pour l'instant, c'est ce dialogue qui est pour nous très important, aussi important pour les ONG même, puisque jusqu'à présent, c'était deux mondes différents.
Mais en dernier ressort, c'est aux actionnaires que vous rendez des comptes et c'est eux qui décident quels intérêts est-ce que les actionnaires ont à voir leur société s'engager dans ce dialogue et quand même dépenser des sous pour entamer ce dialogue aussi.
Les actionnaires d'aujourd'hui ne sont plus les actionnaires du passé. Donc là aussi, les actionnaires nous soutiennent et donc ils sont ravis de l'initiative. Et donc ce sont des gens qui estiment que une entreprise d'aujourd'hui doit vraiment jouer un rôle dans la société.
Il y a eu pas mal de critiques, disons, à la base des ONG, c'est-à-dire des militants qui ne sont pas d'accord avec le sommet de leur association pour travailler avec des gens qui, selon eux, sont à la base des problèmes que combattent les ONG. Et il y a notamment des critiques tout à fait précises sur l'Union minière, qui est quand même, personne ne le conteste, qui traîne quand même un passé, notamment colonial, notamment au Congo, assez lourd. Pour les critiques, ce genre d'entreprise ne peut difficilement être ceux qui vont résoudre les problèmes qui contribuent à créer eux-mêmes. C'est un peu faire entrer le loup dans la bergerie. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Premièrement, je peux constater qu'il y a notamment 6 ONG qui nous soutiennent. Ce ne sont pas des ONG, des petites ONG, au contraire. Ce sont des ONG qui sont très renommées, comme Broederlijk Delen, FOS, Oxfam, Vredeseilanden, Wereldsolidariteit et ACT. Et je peux uniquement constater qu'elles veulent bien travailler avec nous et que ça va très bien. Est-ce que, à cause du passé de Union Minière, on ne peut pas participer à ce projet-là? Non, je crois au contraire, toutes ces entreprises ont leur passé, mais ce qu'on veut faire, c'est réaliser l'avenir dans le Sud, l'avenir de notre société, en participant là où on a besoin de nous.
Mais comment assurer quelque part la crédibilité de ce que vous dites quand on connaît justement le passé de l'Union minière qui est, il faut le dire, assez vraiment non, disons, vraiment très lourd à porter en matière coloniale. Juste pour donner un petit symbole, c'est pas un acte qui porte à beaucoup de conséquences en soi, mais juste pour donner le symbole de la colonisation. Dans son livre, Ludo de Witt signale qu'après l'assassinat de Lumumba, c'est l'Union minière qui a fourni les deux fûts d'acide qui ont servi à dissoudre son corps. C'est purement symbolique, évidemment, mais ça en dit long. Alors, il y a des gens qui disent, plutôt que de donner une aumône, finalement, au tiers-monde, une société comme l'Union minière devrait presque donner des compensations gigantesques au pays où elle a été chercher son minerai. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de critique?
Ben, je ne vais pas entrer dans la discussion sur le livre de M. De Witt. En tout cas, il y a encore une commission parlementaire qui en parle. Mais je crois, comme je l'ai déjà dit, que bon, toutes les entreprises ont un passé, mais il faut quand même dépasser ce passé et donc essayer de se présenter à l'heure actuelle dans la société d'aujourd'hui et donc de voir comment on peut donner des atouts et comment on peut rendre service à la société d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Et ceux qui disent que bon, c'est trop peu ce qu'on fait pour l'instant, etc. Ne voit pas, par exemple, ce que ça pourrait être et devenir le développement durable, puisque je crois que c'est un projet énorme. Évidemment, ça se fait goutte par goutte, hein, donc, mais c'est toujours le cas. On ne peut pas changer tout en quelques temps, donc ça prend du temps. Il faut laisser le temps au temps, mais donc je crois qu'on est vraiment à la bonne route, à la bonne voie. Et le fait qu'il y a ces six ONG qui veulent collaborer avec nous est vraiment la preuve qu'on est à la bonne voie.
Certains critiquent aussi le choix des sociétés qui participent au CFP, pour citer les plus décriées. Citons par exemple Union Minière, qui a quand même un passé colonial, notamment au Congo, qui est quelque peu lourd à porter. Siemens, par exemple, aussi participe à la construction de systèmes d'armement. On dit, quelque part, ce sont les adversaires naturels des ONG qui opèrent dans le tiers-monde. Comment est-ce que vous ressentez cette critique, vous?
Non, non, je peux en ajouter des autres, comme il y a Bekaert avec leur histoire passée au Chili. Il est bien sûr, bon, je crois que d'une part, ces entreprises ont été choisies d'une manière assez arbitraire. C'était parce qu'il y avait les premiers contacts avec ces entreprises-là que ce sont ceux-là qui ont été choisis. D'autre part, on a quand même fait un petit screening de ces organisations-là. Par exemple, Siemens, vous dites qu'ils sont liés à l'armement. On a consulté le mouvement de paix et ils ne sont pas liés à l'armement. Donc, on s'est quand même garanti de cet élément-là. On a dit de manière très claire, et je crois que si on veut parler d'une liste noire, hein, la seule chose qui a été dite aujourd'hui au niveau de CFP, c'est que même les entreprises ont dit qu'il est exclu que des industries qui soient liées de quelque manière que ce soit avec l'industrie d'armement soient. Ni seulement membre de ce club, mais non plus donateur pour un projet. On peut refuser aussi de l'argent d'une entreprise qui veut peut-être donner de l'argent, mais qu'on peut refuser comme CFP. Alors, je crois que là, il y a des choses à faire. C'est-à-dire, Bekaert vient de passer un examen de 2 ans de Etibel. Donc, c'est peut-être la seule entreprise maintenant dont j'ai connaissance, au moins, qui soit la plus propre, pour le dire ainsi. Je ne dois pas parler de ce que Bekaert a fait il y a 30 ans au Chili. C'est bien sûr quelque chose que tout le monde porte en tête quand on parle de Bekaert. Union Minière, la même chose, je dirais, parce que Union Minière, comme vous le dites, a un passé très lourd en Afrique centrale, et notamment au Congo. Apparemment, Union Minière a changé tout à fait de business aujourd'hui. Donc, ça me dit, la seule chose que ça me dit, que peut-être il faut être particulièrement attentif par rapport à des entreprises telles qu'elles sont nommées, de dire particulièrement, peut-être si on commence à faire un screening, il faut commencer avec ceux-là pour voir qu'est-ce qu'on est aujourd'hui sur la pratique de ces entreprises dans le monde.
Vous croyez donc à la possibilité d'un big business éthique, d'un capitalisme éthique?
Je ne crois pas dans le big business éthique, je crois que les entreprises sont en train de faire une évolution qui est intéressante en soi, parce qu'il y a une évolution qui est à constater à l'intérieur des entreprises. Et je trouvais que c'est tout à fait regrettable que les ONG ne fassent pas partie ou ne profitent pas de cette évolution pour faire peser leur mot et leur voix dans ce débat. Ceci ne veut pas dire que je commence soudainement à croire que ces entreprises sont devenues des anges et sont devenues des défenseurs des biens publics, mais oui, je suis convaincu que les entreprises ont un rôle et ont une responsabilité de plus en plus grande aussi à porter, et que les organisations, les ONG, ont, tels qu'ils le font avec l'État, on est en relation aussi un peu ambiguë depuis toujours avec l'État. D'une part, on reçoit de l'argent de l'État. C'est le cas de tous les cofinancements de toutes les organisations non gouvernementales qui sont membres de cette initiative. Ceci ne nous a pas empêchés jusqu'à maintenant de maintenir notre position critique par rapport à ce même État, soit en Belgique, en Europe, soit dans les pays du Sud, là où on travaille. Et ça a été toujours un difficile mariage entre les deux parties, où de temps en temps, on a eu des conflits très forts, mais de temps en temps, ça a créé aussi des opportunités qui ont été jusqu'à maintenant évaluées comme positives pour le développement durable. Donc là, je crois que la seule différence est un peu de savoir que la Constitution, peut-être quand je fais la comparaison avec l'État, la grande différence, c'est d'une part, l'État est structuré de manière démocratique via le Parlement, et donc n'importe quel citoyen peut avoir une influence là-dessus. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas le même cas chez les entreprises. Mais là, peut-être aussi, il faut penser et songer à être un peu plus créatif dans le futur. Moi, je me rappelle les actions toujours, encore aujourd'hui, de la part du mouvement de paix qui s'est fait acteur même financier de certaines entreprises d'armes pour être représenté dans les assemblées générales de ces entreprises et à ce moment-là, peser sur le débat. Donc, rien interdit que les ONG, peu à peu, commencent à penser un peu dans ce sens-là aussi et de dire de quelle manière on peut, de manière démocratique, aussi influencer les entreprises de l'intérieur de la constitution de ces entreprises-là.
Les ONG ont de facto un rôle de contre-pouvoir contre un pouvoir économique qui est souvent perçu comme trop fort et trop puissant. Est-ce que vous pensez que ce rôle de contre-pouvoir reste assumé au sein d'une initiative pareille?
Je crois que oui, dans la mesure, si on est capable, moi je me sentirais mal si on ne lèverait pas le défi de faire partie d'une telle initiative et de rester à côté. Ou je sais aussi, je suis très conscient qu'on reçoit des critiques de certains militants à l'intérieur du mouvement. Et des autres gens avec lesquels on continue à débattre, et je crois que leurs soucis sont encore les nôtres aussi. Mais l'idée, c'est de dire un peu, est-ce qu'on peut établir un pont qui, peu à peu, parce que je crois qu'il s'agit d'un processus là-dedans, qui, peu à peu, peut aller vers une régulation de ce qui est le secteur privé, et aussi de voir quelles sont les responsabilités de l'État là-dedans. Être le pont, ou pouvoir être un peu le pont entre l'État et d'autre part les privés, les industries, je crois que c'est un rôle pour les ONG. On n'est pas ce qu'on a demandé à Prague, ce qu'on a demandé à Davos, ce qu'on demande aujourd'hui au Brésil, c'est une régulation de l'économie. C'est une régulation en faveur du bien public,